Le samedi 2 juin, nous avons célébré la fête du lycée. Les adultes ont apprécié les spectacles des maternelles et les primaires. Ils ont fait des chants et des danses.
Ensuite, nous sommes tous allés dans la cour de récréation pour manger des crêpes, des bonbons, etc. Il y avait aussi des stands de jeux.
Après, nous sommes retournés dans le gymnase et nous avons écouté les collégiens qui ont fait une chanson en espagnol. Il y a eu aussi de l'aïkido et une danse japonaise. Nous avons écouté un discours du président de l'Assemblée nationale.
Nous avons interviewé les élèves de l'école et voici leur réponse. Qu'est-ce que vous avez aimé, Luc ?
J'ai aimé la danse des CM1.
Qu'est-ce que vous avez mangé, Kaito ?
J'ai mangé des crêpes, des hot dogs.
Qu'est-ce que vous avez aimé comme jeu ? Comme chanson ?
Comme chanson ? J'ai beaucoup aimé la chanson des CM2.
Qu'est-ce que vous avez aimé, Isidore ?
J'ai beaucoup aimé la danse des CPCE1.
Qu'est-ce que vous avez mangé, Madalena ?
J'ai mangé une délicieuse crêpe au Nutella.
Qu'est-ce que vous avez aimé comme danse ou chanson ?
J'ai aimé la danse des 6e, 5e.
Qu'est-ce que vous avez aimé, Léo ?
J'ai aimé beaucoup la chanson des CM1.
Qu'est-ce que vous avez mangé, Lynn ?
J'ai mangé des hot dogs et des bonbons.
Qu'est-ce que vous avez aimé comme chanson de danse, Marie ?
Alors, comme chanson ou danse, j'ai beaucoup aimé le spectacle sur ACDC. J'ai trouvé que c'était très surprenant et dynamique.
Merci à tous d'être venus à cette fête.
C'est Clara,
Waco,
Laura,
pour l'Arzo LFIK.
Puisque c'est la fin de l'année, nous avons décidé de poser quelques questions à deux des enseignants du LFIK qui nous quittent. Madame Ménétrier et Monsieur Mélé.
Bonjour Madame Ménétrier.
Pourquoi êtes-vous venue au Japon ?
Je suis venue au Japon parce que c'est un pays qui m'a toujours attirée pour ses traditions, autant pour ses traditions que pour sa modernité.
Est-ce que vous aimez le Japon ?
Oui, j'adore le Japon. Je suis ravie d'être venue et je pense que je reviendrai pour visiter Hokkaido, Okinawa et d'autres endroits que je ne connais pas.
Est-ce que vous êtes contente d'être venue au LFIK ?
Ah oui, c'est une très bonne école. Les enfants sont très agréables et les collègues sont super sympas. Donc oui, je suis très contente.
Est-ce que vous aimez la nourriture japonaise ?
Oui, tout me plaît énormément, en particulier les okonomiyaki et les takoyaki.
Vos enfants ont-elles aimé le Japon ?
Oui, elles sont contentes d'être ici et elles aiment beaucoup de choses. Mais elles sont aussi contentes de rentrer et de retrouver leur famille et leurs amis.
Madame Ménétrier, qu'est-ce que vous avez préféré au Japon ?
Ce que j'ai préféré, tu sais, il y a beaucoup de choses. Mais je crois que c'est la gentillesse des gens, leur politesse et leur sérieux. Sans parler des magnifiques paysages que j'ai vus ici.
Et qu'est-ce que vous avez détesté au Japon ?
Je cherche, mais tu sais, ici, tout m'a plu en fait. Donc si je cherche bien, je peux dire peut-être la saison des pluies.
Est-ce que vous allez ramener des souvenirs en France ?
Oui, bien sûr. Je vais ramener des petites choses que j'ai achetées ici, comme des chats bonheurs de toutes les couleurs. Et d'autres choses aussi, mais aussi des habits et des accessoires trop rigolos pour notre chien qu'on a laissé en France et qui nous attend.
Est-ce que vous êtes contente de rentrer en France ?
Ben, tu sais, ça c'est une question un petit peu difficile. Je suis très triste de quitter le Japon, Kyoto, l'école, les élèves, les collègues. Mais en même temps, je suis contente de rentrer Et il faut savoir aussi que d'autres aventures nous attendent là-bas aussi.
Merci, Madame Ménétrier, d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Radio LFIKA, LFIKA Radio.
Et maintenant, un peu de publicité.
Miam, miam, que buono. Manger ravioli, c'est bon, mais bon pour moi et mes amis. Je mange des raviolis. Qu'est-ce que c'est exquis! Mon ami Rikiki mange des raviolis qui viennent d'Italie! Salut, je m'appelle Lily. J'adore les raviolis et j'aime chanter aussi. Vous avez un petit creux? Daiki ravioli à votre service. Vous pouvez manger bis et même tris. Daiki ravioli!
Cremolato! Manger cremolato d'une saveur exquise et crier buonissimo! Ça serait très triste de manger le tiramisu en pleurant, mais vous pouvez pleurer de joie, bien évidemment. Mettez-vous au soleil et allongez-vous pour profiter de votre tiramisu. Ça vous rendra heureux, joyeux et intelligent. Tiramisu cremolato n'existait pas, il faudrait l'inventer.
Radio LFIKA, LFIKA Radio.
Bonjour Léo, il paraît que vous voulez nous parler d'une légende.
Oui, je veux vous parler de la légende du Kraken.
Oh, mais qu'est-ce que c'est cette légende du Kraken?
C'est un poulpe géant. S'il nous mange, on entre dans un rêve infini. C'est l'un des gardiens de l'Atlantide. Il est très dangereux.
Mais il doit faire peur ce poulpe, mais en fait, comment il est?
Cette créature fantastique médiévale a de grandes et nombreuses tentacules. Il est tellement énorme qu'il peut avaler plus de 1000 personnes par jour.
Waouh ! Mais à quel moment on peut le voir ?
Le Kraken est peut-être une île qui bouge et qui apparaît et disparaît.
Comme c'est bizarre, c'était la minute légende de Monsieur Léo pour Radio LFIKA.
Radio LFIKA, LFIKA Radio.
Bonjour Monsieur Mellet, aujourd'hui on va vous interviewer avant votre départ.
Pourquoi êtes-vous venu au Japon?
Alors je suis venu au Japon parce qu'il y a plusieurs années j'étais venu en vacances, deux fois. Et j'avais beaucoup apprécié ce pays, donc j'étais curieux de voir au quotidien ce que ça allait donner.
Quel lieu préférez-vous?
Alors, ça dépend des fois. J'aime bien me poser pour être calme. J'aime bien aller au Daimonji ou au bord de la rivière. Ou si j'ai envie de rencontrer du monde et discuter, j'aime bien aller chez Philippe.
C'est qui Philippe?
Alors Philippe, c'est le papa de Gaspard. Et il a un bar où on peut écouter de la musique dans le centre de Kyoto.
Quelle nourriture japonaise aimez-vous?
Alors, je pense que mes deux plats préférés sont deux plats d'Osaka, c'est-à-dire les takoyaki et les okonomiyaki.
Quel est votre restaurant préféré à Kyoto?
Alors, mon restaurant préféré, il n'est pas très loin de l'école. Il s'appelle Arisei, c'est un restaurant traditionnel où on mange de la nourriture vraiment japonaise, servie dans des petits plats avec des serveuses en kimono. C'est très joli.
Où est ce restaurant?
Alors ce restaurant n'est pas très loin de l'école, il est en remontant vers le temple, j'ai oublié le nom, Kiyomizu Odera, quelque chose comme ça, pas très loin de la Grande Poste sur Gojo.
Est-ce que les élèves au Japon sont différents des élèves en France?
Alors moi ça fait quelques années que je ne suis plus en France, mais bon j'ai quand même enseigné aussi en France, donc je m'en rappelle quand même. Donc de mémoire, non, les élèves français et japonais sont assez similaires. Assez sage de manière générale, donc non, je trouve qu'ils se ressemblent assez.
Est-ce que la France est plus jolie que le Japon?
Alors, ben, je pense que ce sont d'autres pays très jolis, qui pour moi, au niveau des paysages, se ressemblent pas mal. Mais je dirais pas que l'un est plus joli que l'autre, non. Je pense que les deux ont des endroits très très jolis et très variés dans les deux pays, ouais.
Et la nature, ça se ressemble?
Alors oui, moi je trouve que les forêts françaises et japonaises se ressemblent beaucoup, notamment les montagnes. Je suis allé au ski pendant les vacances d'hiver et je trouvais que ça se ressemblait beaucoup aux Alpes françaises.
Allez-vous rentrer en France?
Alors cet été, je rentre pour les vacances. Mais tous les ans, je rentre en France pour passer les vacances. Mais après, à partir de la rentrée de septembre, je vais aller travailler dans une nouvelle école qui sera au Cambodge.
Est-ce que vous allez un jour revenir au Japon ?
Alors au Japon pour des vacances, je pense, oui. J'ai beaucoup aimé le Japon pour les vacances, donc oui, c'est possible. C'est pas encore programmé, mais c'est fort possible.
Qu'est-ce que au Japon, c'était intéressant ?
Alors plein de choses sont intéressantes au Japon, au niveau de la culture notamment. J'ai pu visiter plein de très jolis temples, plein d'endroits, plein de villes différentes. J'ai surtout préféré les petites villes, loin de Kyoto. Mais sinon, voilà.
Avez-vous aimé la sortie à Anase ?
Alors il y a des moments où j'ai beaucoup aimé. On a bien rigolé au Fodker notamment. Après la pêche aussi, c'est le moment que j'ai bien aimé. Après, je trouvais que l'organisation était un petit peu compliquée. Mais sinon, voilà, il y a eu des moments précis que j'ai bien aimé. Ouais.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous de m'avoir invité et bonne continuation avec votre radio.
C'était Kaito,
Isidore,
Luc,
pour Radio LFIK.
Nous accueillons sur Radio LFIK Natsuki et Monsieur Rouanette pour parler de économie.
Monsieur Rouanet, professeur d'économie, j'ai quelques questions à vous poser.
Bonjour Natsuki, je te remercie de m'avoir invité. Je vais essayer de répondre à tes questions, je t'écoute.
Qu'est-ce que la monnaie ?
Alors la monnaie, c'est un intermédiaire des échanges. Les échanges, ça peut être des échanges de biens matériels, donc d'un objet par exemple, ou alors d'un service, c'est-à-dire de quelque chose qu'on ne peut pas toucher, une coupe de cheveux par exemple. Et la monnaie, elle peut prendre plusieurs formes. Par exemple, ça peut être une pièce. Justement, on dit d'ailleurs, en français, une pièce de monnaie. Ça peut être aussi d'autres choses. Et quelque chose d'important aussi, c'est que la monnaie, elle repose sur la confiance. Par exemple, si tu me vends un stylo, et si je te propose 100 yens, imaginons que la valeur de ton stylo, ça soit 100 yens, d'accord ? Si je te propose une pièce de 100 yens, si tu as envie de vendre ton stylo, tu vas l'accepter ou tu vas le refuser ? Tu vas l'accepter parce que tu sais qu'avec les 100 yens, tu pourras toi-même acheter autre chose à quelqu'un d'autre. D'accord ? Donc tu as confiance. Mais si à la place de cette pièce de 100 yens, en échange de ton stylo, je te propose des coquillages, est-ce que tu vas accepter ou pas ?
Non.
Non, parce qu'avec ces coquillages, qu'est-ce que tu pourras faire ? Bon, peut-être décorer ta chambre. Mais à part ça, dans le Japon contemporain, à notre époque, ça n'a pas vraiment de valeur d'échange, justement, coquillages. Mais tu sais qu'il y a très longtemps, c'était une monnaie de coquillages aussi. À une époque où on ne savait pas faire des pièces métalliques comme ça, par exemple, on utilisait des choses qui étaient un petit peu rares, un petit peu difficiles à trouver, comme justement l'intermédiaire des échanges. Et au Japon, en Afrique aussi, dans beaucoup de civilisations, on a utilisé des coquillages, comme une pièce de monnaie. Donc ça dépend de l'époque, tu vois. L'essentiel dans la monnaie, c'est la confiance.
À quoi sert la monnaie ?
Alors la monnaie, ça sert à échanger justement des biens ou des services plus facilement. Avant la monnaie, comment on faisait pour échanger les biens et les services ? Eh bien, on utilisait une technique qui s'appelait le troc. C'est-à-dire qu'en fait, on échangeait directement, en fait, par exemple, un bien. Je te donne un exemple. Toi, tu as un stylo. Moi, j'ai une boisson. D'accord ? J'ai envie de ton stylo. Je vais te proposer, contre ton stylo, ma boisson. Mais imagine que tu ne veuilles pas ma boisson. Tu vas me dire non. Donc, l'échange n'est pas possible. Tu vois, c'est difficile avec le troc. Il faut que les deux parties soient d'accord. Maintenant, si on prend un autre exemple, Marie, par exemple, qui est en face, qui a un livre, je convoite le livre de Marie et je lui propose ma boisson. Et Marie va accepter ma boisson parce qu'elle a envie de ma boisson. Donc là, l'échange est possible, tu vois. Donc là, je vais pouvoir échanger ma boisson contre le livre. Mais si cette situation, elle est assez rare, parce qu'il faut que les deux personnes soient d'accord, tu vois. Donc le troc, il a l'inconvénient, en fait, de rendre les échanges un peu difficiles. Et du coup, il n'incite pas à produire. Dans le troc, souvent, il n'y a pas beaucoup de croissance, c'est-à-dire on ne produit pas beaucoup, en fait. Parce qu'on ne sait jamais si on va vraiment pouvoir échanger ce qu'on a fabriqué.
C'est quoi les avantages de la monnaie ?
Ben alors justement, un des principaux avantages de la monnaie, c'est d'évaluer la valeur des biens. Par exemple, tout à l'heure, j'ai échangé ma boisson contre le livre avec Marie, mais Marie, elle n'était pas contente parce qu'elle pense que son livre a plus de valeur que ma boisson. Donc l'avantage de la monnaie, c'est que ça permet en fait d'évaluer, hein, c'est comme un étalon si tu veux, ça permet d'évaluer la valeur des biens. Donc, par exemple, Marie, on va dire que son livre, il vaut 100 yens, tu vois. Elle estime que son livre vaut 100 yens. Alors en fait, c'est pas tout à fait elle qui décide, c'est la loi du marché, on appelle ça, mais ça c'est un autre sujet, je t'en parlerai plus tard si ça t'intéresse. Mais on va dire que son livre vaut 100 yens. Et ma boisson, on a décidé, la loi du marché aussi a décidé qu'elle valait 50 yens. Donc si je veux échanger grâce à la monnaie, ma boisson contre son livre, avec 50 yens, je ne peux pas avoir quelque chose qui vaut 100 yens. Donc je suis obligé de donner deux boissons, par exemple. De vendre deux boissons. D'accord ? Voilà. Donc ça permet, deux boissons, d'avoir l'équivalent de 100 yens, l'équivalent d'un livre. Donc ça permet d'avoir la monnaie d'évaluer les choses. Ensuite, ça permet aussi de séparer la vente de l'achat. C'est-à-dire que, par exemple, si je vends une boisson à Marie, elle n'est pas obligée, je ne suis pas obligé de lui acheter son livre. Elle va me donner en échange 50 yens. Tu vois ? Et moi, avec ces 50 yens-là, je peux acheter quelque chose à quelqu'un d'autre. Alors que dans le troc, c'est un jeu à deux, le troc. On est obligé d'acheter et de vendre avec la même personne. Tu vois ? Grâce à la monnaie, je lui vends quelque chose, elle me donne cet intermédiaire, et moi, je vais aller ailleurs, voir quelqu'un d'autre pour acheter quelque chose d'autre. Par exemple, un stylo. Et le troisième avantage de la monnaie, c'est que ça permet aussi de différer l'échange dans le temps. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'échanger tout de suite. Tu vois ? Elle va me donner 50 yens contre ma boisson, et moi, ces 50 yens-là, je peux les garder dans ma poche pendant un an, deux ans, trois ans. Et quand j'aurai envie, je pourrai acheter ce que je veux avec. Donc, vous voyez, la monnaie, c'est quand même quelque chose qui permet de développer les échanges et d'avoir beaucoup plus de souplesse, en fait. Donc, ça permet aussi, c'est vrai, d'améliorer la vie quotidienne par rapport au troc.
Quelles sont les différentes formes de la monnaie ?
Alors, il y a beaucoup de formes possibles. D'accord ? La monnaie, ça peut être, comme on l'a dit tout à l'heure, un coquillage. Ça peut être un objet qui est accepté, dans lequel on fait confiance, en fait, comme intermédiaire des échanges. Et très vite, on s'est aperçu que les coquillages, on pouvait aller les chercher dans la nature aussi. Hein. Donc, c'est pas très équitable, tu vois. Si je vais chercher un coquillage et grâce à ça, je me procure quelque chose que tu as fabriqué, que tu as mis beaucoup de temps à fabriquer, c'est pas très équitable. Donc, on a essayé de trouver une autre façon de faire de la monnaie. On a utilisé des métaux précieux. Parce qu'avec les métaux précieux, comme l'argent ou l'or, là, on est sûr que c'est très rare, donc c'est très difficile à se procurer. D'accord ? Donc, on a commencé par créer une monnaie qui avait ce qu'on appelle une valeur intrinsèque. C'est-à-dire que la valeur de la monnaie, elle correspondait vraiment à la valeur du métal qui avait servi à fabriquer cette monnaie. Mais un peu plus tard, on s'est aperçu qu'on n'avait pas assez d'or et pas assez d'argent disponible sur la Terre pour produire toute la monnaie dont on avait besoin pour les échanges. Donc, on a commencé à faire une monnaie fiduciaire. Par exemple, un billet de banque. C'est-à-dire que la monnaie fiduciaire, elle a une différence entre la valeur qui est écrite dessus, c'est ce qu'on appelle la valeur faciale. Tu vois, c'est écrit sur la face du billet, 1000 yens. Il y a une différence entre la valeur qui est écrite sur la monnaie, sur l'objet monétaire, et puis la valeur du papier. Tu vois, est-ce que tu penses que le papier, il vaut vraiment 1000 yens ? Est-ce qu'un petit morceau de papier comme ça, ça vaut 1000 yens ? Non, ça vaut peut-être vraiment... Si tu achètes juste le papier tout nu, tout blanc, ça vaut peut-être 10 yens, 100 yens, même pas, 10 yens peut-être. Alors, il y a l'encre aussi. Mais au total, ce billet, peut-être, il a coûté comme... 10 yens ou 20 yens à fabriquer. Tu vois. Et pourtant, dessus, on a écrit 1000 yens. Alors ça, c'est pas bizarre, ça. Ben ça, c'est ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Et c'est parce que tout simplement, alors pourquoi on lui donne la valeur de 1000 yens ? C'est parce qu'on lui fait confiance. Parce qu'on sait que quelqu'un d'autre, contre ce billet-là, sera prêt à nous donner un objet qui est évalué à 1000 yens. Tu vois. Et puis, il y a une troisième forme de monnaie, c'est la monnaie scripturale. Par exemple, c'est la monnaie qui est utilisée dans les banques pour les comptes bancaires, ou pour les paiements électroniques. Quand tu utilises une carte bancaire, tu vois, il n'y a plus de papier, il n'y a plus de métal, il y a juste un morceau de plastique. Et en fait, ça va être simplement des numéros. C'est des chiffres qui vont passer par des machines, en fait, jusqu'à ton compte bancaire. Et dans ton compte bancaire, quand tu vas payer quelque chose, on va soustraire la valeur du produit que tu as acheté. Mais tu vois, la monnaie, elle est dématérialisée, là. Elle ne correspond plus à quelque chose qu'on peut vraiment toucher. Donc là, c'est encore une abstraction encore plus grande, tu vois. Et ça permet d'augmenter la masse monétaire et donc de développer encore beaucoup, beaucoup plus les échanges.
Qui a créé la monnaie ?
Alors, qui crée la monnaie ? En fait, la monnaie, pendant très longtemps, c'était l'État. Et en Europe, par exemple, c'était les rois, à l'époque des rois, on créait la monnaie, les empereurs romains, par exemple. Ils créaient la monnaie parce que pour créer une monnaie, il faut être très riche. Et donc, souvent, les empereurs ou les rois, tu vois, ils lèvent des impôts, ils récupèrent des impôts. Donc, ils ont de l'argent, et donc, avec cet argent-là, ils ont de l'or, hein, ils fabriquent des pièces, et puis ensuite, ils font circuler ces pièces. Donc, évidemment, quand ils fabriquent leurs pièces, au départ, ils vont acheter quelque chose. Ils vont, par exemple, demander à un architecte de leur construire un grand monument. Et contre ce service ou ce bien qu'ils achètent, ils vont faire circuler l'argent qu'ils ont fait sous forme de pièces. Tu vois. Et après, cet argent, il circule entre les gens, comme ça. Donc on dit que l'argent, au départ, il est effectivement créé par le pouvoir. On dit que c'est un des pouvoirs régaliens, c'est-à-dire un des pouvoirs principaux du chef d'État, si tu veux, du roi ou de l'État. Et aujourd'hui, il y a les banques aussi qui créent de la monnaie. Mais les banques, pour créer de la monnaie, elles doivent demander, parce que c'est la monnaie scripturale, tu vois, donc c'est les écrits, c'est les chiffres qu'on écrit. Mais les banques, pour créer de la monnaie, donc si vous faites un crédit à la banque, on va écrire sur votre compte bancaire, par exemple, 10 000 euros, comme ça, c'est juste des chiffres. C'est facile à écrire, les chiffres, hein. Mais les banques, elles doivent quand même demander l'autorisation à la banque centrale, c'est-à-dire à la banque qui dépend de l'État et du gouvernement. Donc c'est quand même toujours les États qui ont, si vous voulez, le contrôle de la monnaie. Alors il y a des tentatives à l'heure actuelle de certaines associations, organisations, pour créer des monnaies qui ne sont pas des monnaies liées à des États. C'est ce qu'on appelle par exemple le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est une monnaie qui ne dépend d'aucun État et d'aucun pouvoir. Et ça, c'est un peu compliqué, hein. Mais on est quand même dans un monde où, encore aujourd'hui, l'essentiel de la monnaie qui circule, elle est créée, elle est mise en circulation par l'État, par les États.
Comment se procurer de la monnaie ?
Alors, comment on peut se procurer de la monnaie ? En fait, Marie, tu as glissé tout à l'heure qu'on pouvait attaquer une banque. Oui, c'est une façon de se procurer de la monnaie. Mais si on attaque une banque, ou tout à l'heure tu disais, si on fabrique des faux billets, par exemple, en fait, c'est comme si on obtenait quelque chose de quelqu'un après sans soi-même donner quelque chose en échange. En fait, on falsifie complètement les règles de l'échange. C'est-à-dire que ce billet de 1000 yens que je vais imprimer à la photocopieuse, ça va me permettre d'acheter quelque chose à quelqu'un, et la personne a certainement mis beaucoup de temps à fabriquer ce qu'elle va me vendre, tu vois. Donc, je lui achète quelque chose, mais moi, en échange, j'ai rien vendu à personne, tu vois. Donc, c'est quelque chose de très inéquitable. Si je fais ça, c'est immoral parce que c'est inéquitable. Je me procure quelque chose et moi, je donne rien, tu vois. Donc, non. Il y a une deuxième chose qu'on peut faire pour se procurer de la monnaie, c'est travailler. D'accord ? Parce que quand tu travailles, tu as un salaire, et donc, tu as de la monnaie, et avec cette monnaie, tu peux t'acheter ce que tu veux après. Il y a une troisième chose aussi pour avoir de la monnaie, c'est d'investir de l'argent dans, par exemple, un appartement. C'est ce qu'on appelle le capital. C'est-à-dire que tu as économisé quelques milliers de yens, ou quelques centaines, ou quelques millions de yens, et avec ça, tu vas t'acheter quelque chose, comme un appartement, tu vas le louer à des locataires, et en échange, ils vont te donner un loyer. Tu vois ? Donc ça te permet aussi de récupérer, d'avoir de la monnaie. En fait. Puis il y a une troisième chose, quand tu n'as rien du tout, par exemple, tu n'as pas beaucoup d'argent parce que tu travailles, mais tu n'as pas un bon salaire, tu n'as pas de capital, donc tu n'as pas de loyer, hein, des locataires qui vont t'apporter de la monnaie. Troisième chose, c'est le crédit dans ce cas-là. Tu vas voir la banque, tu lui demandes de te faire un crédit, c'est-à-dire de te prêter de l'argent. Et donc, brusquement, tu vas te retrouver avec une grosse somme d'argent qui va te permettre d'acheter des choses très grosses comme un appartement ou une voiture. Mais cet argent-là, il va falloir ensuite que tu le rembourses. Évidemment, ce n'est pas un cadeau.
Voilà. Oui.
Donc cet argent, tu vas le rembourser, et la banque, elle n'est pas non plus, c'est pas une organisation humanitaire, hein, donc elle va te demander de donner plus d'argent, de rendre plus d'argent que la somme qu'elle t'a prêtée. Par exemple, si elle te prête 1000 yens, elle va peut-être te demander de lui rendre 2000 yens, mais d'une façon étalée dans le temps, tu vois. Donc ça, c'est des façons qu'on peut avoir pour se procurer de la monnaie.
Quelles sont les meilleures façons de mettre de l'argent de côté ?
Alors tout à l'heure, j'ai entendu une chose, quelqu'un a dit, c'est bien d'enterrer l'argent. Donc ça, c'est comme ça que pendant longtemps, les gens ont fait, en fait, pour mettre de l'argent de côté, ils le cachaient. Et on dit que les paysans, parfois, ils mettaient de l'argent sous leur matelas. C'est-à-dire, ils le cachaient chez eux, parce qu'on ne sait jamais s'il y avait des voleurs et tout ça. Au moins, on était sûr de le récupérer. Mais ça marche avec la monnaie qui est donc intrinsèque, c'est-à-dire avec la valeur intrinsèque de la monnaie. Pour les pièces d'or et les pièces d'argent, ça marche. Parce que l'or, il a une valeur qui ne va jamais se perdre, tu vois. Depuis le début de l'humanité, depuis le début de l'utilisation de l'or comme matériau pour faire la monnaie, l'or, il a toujours de la valeur. Donc, si tu as de l'or, tu peux l'enterrer effectivement, tu le retires dans 30 ans et il aura toujours de la valeur. Mais si c'est de la monnaie fiduciaire, ça ne marche pas comme ça. Parce que ça, si tu l'enterres, peut-être que dans 20 ans ou 30 ans, tu sais, il n'y aura plus la même monnaie, ça va peut-être changer. Tu sais, en France, par exemple, avant, il y avait les francs. Maintenant, il y a les euros. Mais il y a des gens qui ont gardé des francs chez eux comme ça. Et aujourd'hui, ils retrouvent ça, ils les avaient oubliés, ils retrouvent parfois dans un placard des billets de 500 francs, tu vois, c'était cher les billets de 500 francs. Et bien, il n'y a plus de valeur, ça ne vaut plus rien, personne ne va les accepter, ces billets-là. Donc, c'est surtout pas la chose à faire, en fait. Pour mettre de l'argent de côté, le mieux, c'est de le placer sur un compte d'épargne. C'est-à-dire, tu vas le placer à la banque, elle va le mettre dans des coffres, et ensuite, elle va en faire quelque chose, elle ne te dit pas quoi, mais elle va en faire quelque chose. Et cet argent-là, en plus, sur un compte d'épargne, si tu places 1000 yens, par exemple, c'est un crédit à l'envers, en fait. C'est-à-dire que là, ça va te rapporter. Au lieu de te coûter comme le crédit, ça te rapporte. Donc tu places 1000 yens et à la fin de l'année, par exemple, tu vas avoir 1100 yens. Donc c'est intéressant parce que là, en plus, ça te rapporte. Donc il vaut mieux placer son argent, on dit, que de le garder chez soi pour rien en faire.
Que se passe-t-il s'il n'y a pas assez de monnaie en circulation?
Alors, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus assez de monnaie en circulation? Ben, en fait, on peut comparer ça, tu sais, avec un peu un moteur de voiture, avec l'huile qui circule dans un moteur de voiture. S'il n'y a plus d'huile qui circule, le moteur s'arrête, parce que les pièces se grippent, etc. Il n'y a plus de lubrification, le moteur ne tourne plus et il se casse. Ben, c'est pareil dans l'économie. S'il n'y a plus de monnaie en circulation, comment moi je vais pouvoir acheter le livre de Marie? J'ai plus d'argent. Comment Marie, elle va pouvoir m'acheter ma boisson? Elle n'a plus d'argent. Comment moi, je vais t'acheter ton stylo? Il n'y a plus d'argent en circulation, tu vois, ou il n'y en a pas assez. Donc, toi, par exemple, bah, tu vas garder ton stylo, et puis si tu fabriques des stylos, tu ne vas pas en fabriquer d'autres, parce que tu sais que personne ne te les achètera, il n'y a plus de monnaie. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas assez de monnaie en circulation? Il y a, en fait, un blocage de la croissance, il y a un blocage de la production. Les gens s'arrêtent d'échanger et les gens s'arrêtent de fabriquer. Vous voyez, donc c'est très important qu'il y ait de la monnaie. C'est ce qui permet, en fait, de faciliter les échanges et de développer, justement, la croissance économique, c'est-à-dire la production, en fait. Vous voyez? Alors, ça arrive, ça, surtout dans les crises, ce qu'on appelle les crises. Là, souvent, il y a un problème de monnaie, il n'y a plus assez d'argent en circulation. Par exemple, tu parlais dans ta présentation tout à l'heure de la crise de 2008. Ben, c'est ça. Pourquoi il n'y avait plus d'argent en circulation? Parce que les banques ont fait faillite. Il y a eu des problèmes aux États-Unis, etc. Il y a beaucoup de banques qui ont fermé, qui ont fait faillite. Donc, par exemple, les gens qui voulaient retirer leur argent à la banque était fermée. La banque avait fait faillite, elle n'existait plus. Donc, tu arrives à la banque, tu dis, je veux mes 1000 yens, et ils te disent, ben non, la banque n'existe plus. À la place, tu as un convini, ou je ne sais pas, tu vois. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu as perdu tout ton argent. C'est ce qui s'est passé en 2008. Il y a des gens qui ont tout perdu. La monnaie, elle s'est contractée, là, il y a eu une contraction de la masse monétaire. Il n'y a plus beaucoup d'argent en circulation. Et du coup, ben, les gens, ils se sont arrêtés de fabriquer, ils se sont arrêtés de produire. Et les entreprises, elles ont licencié. C'est-à-dire qu'elles n'avaient plus besoin d'embaucher des ouvriers, elles n'avaient plus besoin d'embaucher des salariés. Donc elles ont dit, ben maintenant vous êtes au chômage. Et vous voyez, la crise comme ça, elle s'est, si vous voulez, entretenue, auto-entretenue, c'était un cercle vicieux. Alors on en est sorti, mais plus ou moins, mais ça c'est une autre histoire. Oui? Tu veux poser une question?
Mais comment ça repartit?
Ah ben voilà, c'est comment ça repartit. Ben comment ça repartit? En gros, ce sont les États, les gouvernements dans le monde qui ont aidé les banques. C'est-à-dire pour éviter que toutes les banques fassent faillite, les États ont un peu, si tu veux, réinjecté de l'argent. Ils ont soutenu les banques pour, malgré les problèmes financiers des banques, ben, leur permettre de faire leur travail, en fait. Et du coup, ben, d'une certaine façon, c'est les États, le budget de l'État, qui a financé le déficit des banques, dans certains cas. Oui.
Comment une crise commence?
Ben alors, il y a plusieurs types de crises, tu vois, ça dépend. Par exemple, pour la crise de 2008, elle a commencé parce qu'aux États-Unis, il y a des gens qui avaient fait des emprunts, donc qui avaient fait des crédits, si tu veux, pour acheter des maisons. Et ils ont emprunté beaucoup, beaucoup d'argent. Et cet argent-là, en fait, ils ne pouvaient plus le rembourser. Parce que les banques, elles ont prêté de l'argent à des gens qui étaient assez pauvres, en fait. Et au final, ces gens-là, ils n'ont pas pu rembourser ce que les banques avaient prêté. Donc les banques, si tu veux, elles ont fait faillite. Elles avaient plus, on ne leur rendait pas l'argent qu'elles avaient prêté. Elles ont fait faillite et tout le monde a été pénalisé après, tu vois, pour simplifier les choses.
Merci d'être venu répondre à mes questions.
Merci Natsuki de m'avoir invité. Merci de m'avoir posé des questions très intéressantes. Je vois que tu as fait des recherches déjà sur le sujet. C'est très bien. Moi, je t'encourage à continuer à t'intéresser à l'économie.
Radio LFIK, LFIK Radio.
Et maintenant, voici la minute littéraire proposée par Kotomi, Lucie et Io en grande section.
Il était une fois une fée qui rencontrait un lapin. Le fée, il s'appelle Violet et il est joli. Elle avait du maquillage sur son visage, elle avait des mèches violettes, elle avait des ailes. Et elle avait une baguette magique. Et le lapin, il s'appelle Pinoula. Et le chapeau, il est multicolore. Et son short, il est rouge et son manteau, il est bleu. Quand Lapino, il casse les yeux dans le jardin, il a contrôlé le fée.
Ils sont tombés amoureux et la pilou, il a épousé la fée et il a envoyé à sa maison qui était toute en chocolat
et ils se mariaient.
Et ils ont mangé beaucoup de chocolat en forme de carotte et en cœur. Après, tous les deux, ils cachaient dans le jardin les œufs de Pâques.
C'était l'histoire de la fée et le lapin.
Fabriqué de la classe de la grande section.
Merci Kotomi, Lucie et Io pour cette histoire gourmande.
C'est les vacances! Yeah!
Voici 8 conseils pour cet été.
Faites attention au soleil. N'oubliez pas de mettre votre chapeau et votre crème solaire.
Buvez de l'eau pour pas avoir trop chaud.
Faites-vous plaisir à manger une glace.
Si vous êtes à côté de la plage, baignez-vous, faites des châteaux de sable.
Profitez-en pour faire des pique-niques, mais sous le parasol.
Profitez de l'été, ne restez pas enfermés dans votre maison.
Amusez-vous avec vos grands-parents, vos cousins et vos cousines.
Mais n'hésitez pas à arroser les gens.
Faites-vous plaisir, mettez des jolis habits.
Jetez la déesse à la mer, profitez-en pour lire.
Bonne vacances!
C'était les conseils d'été sur Radio LFIK.
Voilà, c'est la fin de la deuxième émission de Radio LFIK.
Rendez-vous pour de nouvelles émissions l'année prochaine.
En attendant, dans un numéro spécial, vous pourrez retrouver en images et en audio un entretien de nos lycéens avec M. Bouchard, directeur de la EFE.
Radio LFIK.